Alors, le sujet de cette table ronde est extrêmement important. Je pense qu'il est transversal à d'autres tables rondes qui ont eu lieu depuis 2 jours. Chacun des participants là va être présenté par ma voisine Artemisa.
Oui, bonjour. On va commencer immédiatement avec la première présentation, qui est celle de Jules Falquet. Donc, je vais présenter très brièvement Jules Falquet, et il est sociologue à l'Université de Paris 7. Elle est membre du CEDREF et CSPRP, responsable de la spécialité de master recherche genre et développement. Entre ces thèmes de recherche se trouvent les mouvements sociaux de résistance à la mondialisation, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes, et parmi ces thèmes de recherche se trouve l'épistémologie féministe aussi. Donc je passe la parole.
Merci beaucoup. Bon, bah, ça marche pas. Allô, allô. Oui, vous m'entendez un petit peu? Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont déjà là malgré l'emploi du temps très très tendu et les organisatrices et organisateurs à la fois de cette semi-plénière et de l'ensemble du congrès. Et je voudrais aussi souligner que ce travail que je présente, c'est lié d'une partie. D'un côté à mon habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenue l'année dernière. C'est lié aussi à une réflexion collective, une réflexion qui est ancrée dans l'action et la participation à différents mouvements sociaux. Et c'est lié aussi, et c'est un élément très important, au travail, à un travail collectif dans le monde académique, et en particulier dans le cadre du RT24, auquel je participe depuis déjà assez longtemps, et dans d'autres espaces académiques aussi. Alors, je voudrais essayer de développer 3 points en quelques instants trop courts. D'abord, la nécessité et même l'urgence théorique et aussi l'urgence politique de penser l'imbrication. C'est pas un luxe de penser l'imbrication des rapports sociaux, c'est un besoin. Je voudrais ensuite souligner le fait que c'est une réflexion qui n'est pas nouvelle. La réflexion politique et théorique sur l'imbrication remonte au moins aux années 70 et elle est issue en particulier du mouvement féministe, d'un côté des féministes noires des États-Unis à travers le combat Combahee River Collective notamment, qui a été le premier à poser cette question et cette réflexion théorique et pratique, et puis aussi, dès les années 70, un certain nombre de théoriciennes françaises ou francophones matérialistes ont amené des éléments très intéressants que je développerai. Et puis, le troisième point que je voudrais aborder, c'est la manière dont la pensée de l'imbrication des rapports sociaux nous permet de penser notre réalité sociale et en particulier les paradoxes de la mondialisation néolibérale qui est mon objet de recherche empirique. Alors, est-ce que ça va bien au niveau du micro? Enfin, au niveau du son, parfait. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, souligner à quel point ce n'est pas un luxe, mais c'est une urgence, à la fois qui m'est personnelle, mais qui est une urgence aussi sociale et politique, cette nécessité de penser l'imbrication des rapports sociaux. Je voudrais d'abord dire que c'est une urgence en France. C'est une urgence face à la montée du racisme, qui est un racisme également classiste d'ailleurs, et d'un racisme surtout qui est légitimé ou qui tente de se légitimer au nom des droits des femmes. Par exemple, les attaques contre les femmes réputées musulmanes aujourd'hui, qui sont des attaques qui sont légitimées par, soi-disant, une nécessité de défendre la liberté des femmes. Dans une espèce de logique, toutes les femmes sont blanches. Alors, je reprends l'expression des féministes noires nord-américaines. Hein, toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais certains d'entre nous n'en peuvent plus de cette situation. On voit cette situation paradoxale et fausse, bien entendu, cette interprétation du monde social. On la voit aussi dans le cadre, par exemple, de l'instrumentalisation de certaines revendications gays et lesbiennes. Là, je pense à l'exemple du mariage pour tous et toutes. Et on pourrait penser par moment que ben voilà, toutes les lesbiennes et les gays sont blanches et blancs. Et par exemple, tous les homophobes sont des personnes racisées, par exemple, ou des personnes des secteurs populaires, des banlieues, etc. Dans les deux cas, ce qui est particulièrement problématique, c'est comment sont instrumentalisées et sont finissent par être responsabilisés, notamment du racisme, des mouvements sociaux qui, en réalité, et en particulier le mouvement féministe, et aussi d'une certaine manière le mouvement LGBT, sont des mouvements qui, au contraire, historiquement, ont posé la question de l'imbrication et ont travaillé à fournir des éléments pour penser cette imbrication. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en France, c'est absolument nécessaire de penser l'imbrication. Nécessaire et urgent. C'est aussi nécessaire et urgent pour comprendre la mondialisation néolibérale, donc de manière au-delà des frontières de l'Hexagone. Alors, je vais laisser quelques instants aux gens pour entrer tranquillement. Oui, non, peut-être. Oui, quand même, c'est mieux. Une demi-seconde. Hein. On n'est quand même pas une demi-seconde près pour que les gens puissent s'asseoir. Alors, l'autre raison pour laquelle c'est très important de penser l'imbrication dans le cadre de la mondialisation, c'est quelque chose que j'essaye de comprendre depuis déjà plusieurs années, et c'est ce qui a été qualifié par certaines personnes, par exemple Elena Errata, de paradoxe de la mondialisation, ou paradoxe de la mondialisation néolibérale, c'est le fait qu'advienne en parallèle des reculs sociaux très importants, une augmentation des inégalités, notamment des inégalités nord-sud, notamment des inégalités de classe, et aussi en fait des inégalités de sexe, mais qu'en même temps qu'il y a tous ces reculs sociaux et toutes ces situations, je ne vais pas détailler, assez ou très préoccupantes, il y a un discours qui dit « mais en fait la situation des femmes, au moins dans ce désastre, la situation des femmes s'est améliorée, s'améliore, il y a des lois de plus en plus égalitaires, il y a un meilleur accès au marché du travail. » Enfin, il y a différentes manières de présenter les choses, mais il y a cette idée que, en même temps qu'il y a ces horribles reculs sociaux, il y a une amélioration, notamment pour les femmes. Et par exemple, on est toujours accusé de pessimisme si on ne fait pas ressortir ces avancées pour les femmes. Enfin, et... comment dirais-je ? C'est pas une question, en fait, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide ? Et le problème, c'est surtout, comment se fait-il que le verre soit à moitié vide ? Et comment se fait-il que, par exemple, certes, il y a des avancées pour des femmes, mais pour certaines femmes, et que, par exemple, les femmes migrantes, racialisées, sans papier, de classe populaire, se retrouvent massivement astreintes au travail dévalorisé, dévalorisé socialement et aussi dévalorisé en termes économiques ? Dans le cadre de ce qui est très étudié aujourd'hui, qui est, alors certaines personnes l'appellent l'internationalisation du care, et moi ça me semble plus intéressant de l'analyser comme l'internationalisation de la reproduction sociale anthroponomique. Mais bon. Donc pour comprendre ce verre à moitié vide, pour comprendre ce paradoxe de la mondialisation, il est absolument nécessaire de penser l'imbrication. Penser l'imbrication, c'est ça qui va nous permettre de mieux analyser cette espèce de, à la fois de généralisation et de précarisation du salariat. Généralisation, précarisation, extension à des nouveaux groupes, en particulier à des nouveaux secteurs de femmes et à de nouveaux groupes, on pourrait dire racialisés, pour le dire très rapidement, notamment, par exemple, le fait que un certain nombre de paysanneries autochtones des pays du Sud soient précipitées sur le marché du travail rémunéré. Alors, je viens maintenant, parce qu'on a très peu de temps, à la réflexion actuelle, les sources et la réflexion d'une possible théorisation de l'imbrication des rapports sociaux. Alors, j'insiste encore une fois, hein, c'est une réflexion qui n'est pas une invention sophistiquée pour briller dans l'académie, hein, et qui n'est pas quelque chose qui vient d'intellectuels qui, dans leur tour d'ivoire, auraient imaginé des raffinements théoriques. C'est vraiment quelque chose qui est issu de luttes sociales, de luttes collectives. Hein, je ne reviens pas sur le fait que c'est un groupe de femmes de secteurs populaires noirs aux États-Unis se revendiquant du féminisme et certaines se revendiquant lesbiennes qui ont posé les première, le terme de interlocking systems, c'est le Combahee River Collective. En France, je rappelle que, donc ça c'est en 77, hein, en France, dès les années 70, Daniel Kargoat, par exemple, pense et théorise les liens entre le sexe et la classe. Mais comme ces travaux sont, je suppose, assez connus, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Moi, je voudrais surtout souligner les apports de Colette Guillaumin dès également 72 et 78, ces travaux sur le racisme d'une part et la question des rapports sociaux de sexe d'autre part. Alors, et j'insiste aussi, excusez-moi, hein, mais il ne s'agit pas de parler au plan micro, au plan individuel d'un cumul de handicaps, on parle bien de la simultanéité de rapports sociaux transversaux à l'ensemble de la société. Alors, l'apport de Colette Guillaumin, c'est en particulier le concept d'appropriation, qu'elle développe, pour analyser les rapports sociaux de sexe, elle développe le concept de sexage. Le sexage, c'est l'appropriation physique directe contre un entretien. Donc c'est un concept qu'elle construit en le différenciant et en l'opposant en quelque sorte au salariat. Hein. Le salariat, c'est la vente de la seule force de travail contre un salaire. Le sexage, comme, dit-elle, le servage et l'esclavage, ce sont des logiques d'appropriation physique directe du corps entier, de l'individu entier, contre un entretien. Donc, ce qu'elle affirme avec ça, c'est qu'il y a des ressemblances importantes et historiques entre le sexage, le servage et l'esclavage, donc dit autrement, entre les rapports sociaux de sexe et ceux de race. Il y a la légitimation par une même idéologie, l'idéologie naturaliste. Ces rapports sociaux sont soutenus par des systèmes juridiques, hein, puisque l'esclavage notamment, le servage et les rapports sociaux de sexe sont vraiment basés, c'est vraiment des systèmes juridiques qui définissent la propriété des moyens de production et la propriété des personnes. Et ce sont donc deux modes d'obtention du travail qui, c'est des modes d'obtention du travail qui s'opposent au salariat. Et elle montre bien, et c'est ça l'autre chose importante et que je voudrais faire ressortir, elle montre bien comment l'appropriation d'une part, et donc appropriation qui concerne le sexe et la race, et exploitation qui concerne les rapports de classe, sont en contradiction. Cette contradiction permet l'existence d'une dynamique, permet une réflexion historique sur la manière dont évoluent d'un côté les rapports de sexe, de l'autre côté les rapports de race, du troisième côté, si on peut dire, les rapports de classe. Donc, par, je sais pas si par opposition, mais à la différence de la réflexion très classique et très connue sur les classes de Marx et de toutes les personnes qui l'ont suivi, qui sont allées dans la même direction, Marx pensait qu'il y avait une inéluctabilité de l'extension du salariat, et Guillaumin nous permet de penser au contraire, et c'est là que c'est intéressant, nous permet de penser la coexistence durable de différents rapports sociaux. En l'occurrence, les rapports de classe coexistent depuis très longtemps et vont continuer à coexister avec des rapports de sexe et des rapports de race. C'est ça aussi qui nous permet de comprendre, bien que ça paraisse paradoxal si on a une vision linéaire de l'histoire, c'est ça qui nous permet de comprendre la persistance ou le regain même de l'idéologie naturaliste. C'est ça qui nous permet aussi de comprendre certains reculs juridiques qu'on déplore et qu'on aurait également pu penser impensables. Par exemple, les lois migratoires de plus en plus restrictives qui créent des personnes sans papier, en fait, elles créent des personnes sans droit. Et donc ça rejoint la question de systèmes juridiques qui vont permettre et qui vont renforcer les mécanismes d'appropriation, donc les rapports sociaux de sexe et de race. Alors, j'espère ne pas vous avoir perdu, il me reste environ une minute. Dans cette minute, je voudrais dire que la pensée de Guillaumin, deux minutes, hein, c'est magnifique, la pensée de Guillaumin, j'essaye de la faire travailler et de la développer encore un petit peu. Et ce que je propose, pour l'utiliser notamment pour comprendre la mondialisation, c'est l'image des vases communicants. Parce qu'en fait, vases communicants entre les rapports de sexe, de classe et de race. Parce que quand on se demande s'il y a finalement une amélioration ou une détérioration de la situation des femmes dans le cadre de la mondialisation néolibérale, surtout ce qu'il faut comprendre, c'est cette logique, cette double logique à la fois d'extension et de détérioration des rapports salariaux ou du salariat. Et en réalité, la logique des vases communicants, ça permet de comprendre cette espèce de retour paradoxal à des formes d'appropriation. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on appelle esclavage moderne, notamment dans le domaine du travail domestique, du travail sexuel et peut-être aussi du travail procréatif. C'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, on peut comprendre avec l'image des vases communicants, je propose d'essayer de comprendre la mondialisation néolibérale comme un rééquilibrage entre d'une part l'appropriation et d'autre part l'exploitation. Hein, rééquilibrage. Et puis un rééquilibrage d'autre part entre deux grandes formes d'appropriation. L'une, les rapports de sexe, l'autre, les rapports sociaux de race. Et pour être un tout petit peu plus concrète, c'est très important de comprendre ça parce que ce que les personnes blanches, hommes et femmes, obtiennent, par exemple, en termes de libération du travail de reproduction sociale, hein, quand, par exemple, un couple hétérosexuel blanc engage une femme de ménage, donc les hommes et les femmes blanches qu'ils obtiennent en termes de libération du travail de reproduction sociale anthroponomique, eh bien, ils l'obtiennent en renforçant les rapports notamment de race et aussi de sexe, en employant, s'ils emploient, bien entendu, notamment une travailleuse migrante sans papier, ou avec papier d'ailleurs, et d'ailleurs elle n'a pas besoin d'être migrante, il suffit qu'elle soit racisée. Donc ça c'est important dans ce qui est concret, et puis aussi dans l'utopie par exemple, si on imagine de quitter le salariat et qu'on regarde d'un œil ému vers les sociétés traditionnelles, par exemple l'agriculture autosuffisante, est-ce que ça c'est possible sans l'appropriation, notamment sans les mécanismes d'appropriation du travail des femmes? Est-ce que c'est possible sans renforcer les rapports sociaux de sexe? Ou bien si on pense à un revenu garanti au Nord, est-ce que c'est possible sans l'appropriation du travail des personnes du Sud, hommes et femmes? Voilà. Donc, ce que je voulais dire très rapidement pour conclure, c'est qu'il est absolument nécessaire de penser l'imbrication. Ce n'est pas pour répondre à une mode, c'est une nécessité politique et sociale. C'est une nécessité pour penser ce qui nous arrive et aussi pour réfléchir à des alternatives. C'est aussi une nécessité en sociologie, bien évidemment. Les sociétés, elles sont complexes, elles ne sont pas unidimensionnelles. C'est une nécessité pour penser la dynamique des sociétés. J'ai rappelé que les outils existent et qu'ils viennent des mouvements sociaux et notamment du mouvement féministe. Qu'il est urgent et important de ne pas laisser ces théories et ces outils être manipulés, récupérés. Et puis, je pense que les applications de ces outils pour penser l'imbrication sont nombreuses. Là, j'ai pris l'exemple de la mondialisation. Je pense qu'on peut en prendre beaucoup d'autres. Et alors là, je fais un instant de publicité. Un exemple de l'application de l'imbrication, c'est est-ce qu'on peut penser à l'université, donc beaucoup plus près de nous, l'imbrication des logiques sexistes, classistes et racistes. Et donc, je vous invite à la discussion qui aura lieu demain dans le RT 24 de 14 à 16 heures sur le racisme à l'université.
Merci beaucoup.
Oui, bon, on va... On va passer immédiatement à notre deuxième intervenante. C'est le cas, c'est Natacha Chetkouti, que je vais vous présenter. Elle est sociologue et membre de l'équipe CRESPA-GTM. Elle s'intéresse au sujet de d'épistémologie des théories du genre et l'énonciation de soi et position minoritaire. Actuellement, elle travaille avec une bourse de l'MIT sur la réception de la théorie queer en France. Donc, je vous laisse là. Merci.
Alors, oh là. Ça ne va pas du tout, ce truc. Non, sinon, non, tiens. Ah, ben voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des personnes du bureau du réseau thématique 24 de m'avoir invité à présenter cette contribution qui reflète la fécondité de notre travail dans sa pluralité de positions théoriques et politiques. Et je remercie tout particulièrement Nelly Quemener et Maxime Servul dans l'accompagnement de cette réflexion qui reste une invitation à penser collectivement une analyse des processus d'émancipation à l'intérieur des reconfigurations contemporaines des rapports de domination. Alors, dans la continuité de l'intervention de Jules Falquet, je me propose de revenir sur le concept de genre dans un dialogue nécessaire dans le contexte actuel entre l'approche féministe matérialiste, selon laquelle il n'y a de différence de sexe que comme effet des rapports de domination, et le féminisme post-structuraliste, apparu dans la troisième vague du féminisme dans les années 90 en France, pour qui le concept de genre doit s'articuler avec les formes sociales, symboliques et matérielles, aussi bien qu'avec les formes subjectives issues d'expériences sociales situées. Travailler à partir de ces deux approches permet d'appréhender les rapports sociaux de domination et les processus de résistance à l'aune d'une conception du sujet prenant en compte l'articulation des dynamiques sociales et de l'expérience individuelle. Dans un premier temps, je vais décrire la manière dont le travail critique de l'usage des catégories hommes-femmes a été abordé en France, Dans une seconde partie, je reviendrai sur les notions de rapports sociaux de sexe, relationnalité de genre et subjectivité située. Enfin, dans une troisième partie, je tenterai de proposer quels sont les enjeux contemporains, épistémologiques et méthodologiques d'un lien entre post-structuralisme et matérialisme pour penser les rapports de domination. Alors, premier point, l'approche wittigienne, ou encore de Monique Wittig, de la remise en cause des catégories femmes et hommes. Une des pionnières matérialistes à avoir remis en cause l'usage des catégories hommes et femmes, enfin hommes-femmes plutôt, et Monique Wittig, dans trois articles fondamentaux, La pensée straight, On ne naît pas femme, La marque du genre, où elle élabore une analyse critique de ce qu'elle nomme le contrat social hétérosexuel. Elle explique que la pensée straight, en référence à la pensée sauvage de Lévi-Strauss, a formé les concepts de femme, d'homme, de différence qui marquent l'histoire au singulier et la culture au singulier. Selon Wittig, la pensée straight va ainsi interpréter de façon totalisante l'histoire toujours au singulier, le langage au singulier, la culture et les sociétés. Elle a une tendance universalisante dans sa production des concepts. Et la formation de lois générales vaut pour toutes les époques, tous les individus, toutes les sociétés. L'échange des femmes, la différence des sexes, l'inconscient, le désir, la culture. Ces catégories n'ont de sens pour Wittig que dans l'hétérosexualité ou pensée de la différence des sexes en tant que dogme philosophique et politique. Dans ce système, Wittig n'oppose pas des individus définis par leurs préférences sexuelles, mais elle oppose lesbiennes à femmes, femme entre guillemets, désignant une position enclavée dans le rapport social dominé économiquement, idéologiquement et politiquement, et dans l'ordre du discours et des savoirs. Pour Wittig, si la langue, les pratiques sociales sont prises au piège à l'intérieur de la catégorie de sexe, c'est en travaillant la matérialité de ces formes qu'il est possible de se libérer de cette catégorie et de faire émerger les sujets parlants occultés dans le système politique de l'hétérosexualité. Cherchant à montrer le lien entre l'oppression des femmes et les régimes politiques de l'hétérosexualité, Wittig insiste sur la nécessité de détruire le contrat hétérosexuel en analysant l'ensemble des dimensions des rapports sociaux qui agissent matériellement sur la vie des personnes. Dans cette perspective, l'accent est mis sur une analyse en termes de rapports sociaux. Dans sa définition, selon Daniel Kergoat, un rapport social met en relation des groupes d'individus aux intérêts opposés. La force, la domination et donc l'antagonisme sont les moteurs du système. Un rapport social est donc une relation antagonique entre deux groupes sociaux établis autour d'un enjeu. Il n'est pas un donné extérieur aux personnes, c'est un rapport de production matérielle et idéale. Appliqué à la notion d'hétérosocialité chez Wittig, cela revient à penser que les rapports sociaux de sexe sont pris à l'intérieur de ce système plus global. Il s'agit donc pour Wittig de sortir de l'identification à la catégorie femme afin de remettre en cause le rapport social de sexe en tant qu'il est fondé sur l'hétérosocialité. Il s'agit donc dans cette approche de faire advenir le sujet dans un processus d'échapper du rapport d'appropriation de la classe de sexe femme, la posture lesbienne représentant la figure inaugurale de la disparition au-delà de la catégorie de sexe. Ce serait, pour reprendre les termes de Pascal Molinier, une première fêlure dans un système masculino-centré. Alors, deuxième partie, quel est l'apport de l'approche post-structuraliste ? C'est dans ce cadre problématique que vont s'élaborer d'autres formulations du concept de genre et de la théorie du sujet politique dans les années 90. Celles-ci émergeront en particulier du féminisme post-structuraliste et dans son sillage de la théorie queer. Cette réécriture conceptuelle dans la pensée féministe propose des approches sensiblement différentes. L'une, telle que l'a définie Teresa de la Auretis, constitue l'un des apports essentiels à la pensée critique dans la mesure où elle envisage la construction du genre comme produit et processus de représentation. Or, dans cette représentation hégémonique, le genre est construit comme le produit du sexe et tourné vers un désir hétérosexuel. Et c'est sur ce point que de la Auretis permet aussi de penser les résistances, puisqu'elle envisage l'autoreprésentation et l'expression des subjectivités comme autant de micropolitiques amenant à résister localement au contrat social hétérosexuel. L'apport de la Auretis réside dans le fait qu'elle articule trois perspectives jusque-là dissociées, féministe, sémiotique et foucauldienne. Ce qui aboutit à la proposition suivante, le genre est un processus de représentation. et sa représentation et, EST, sa construction. Et celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un processus d'assujettissement. En d'autres termes, ils constituent des sujets idéologiquement pris dans cette toile sémiotique pour s'énoncer ou s'auto-représenter sans pour autant les déterminer pleinement. Dans cette perspective, il s'agit bien de penser la spécificité du sujet, de sa représentation et de son auto-représentation dans le cadre de l'idéologie du genre. Se saisissant du concept d'hétéronormativité, il va s'agir d'analyser les relations sociales de genre au prisme d'une théorie du sujet qui relie le social et le subjectif. Reprenant ainsi la notion d'expérience comme centre du raisonnement, Delahortis propose de vider de son sens l'idée d'une naturalité du désir reposant sur un présupposé binaire de genre en ne réduisant pas la subjectivité à l'effet du social, mais en considérant également que la subjectivité individuelle ne lui préexiste jamais non plus. Ce point de vue, la construction du sujet présente des analogies avec l'approche critique féministe matérialiste, mais elle s'en détache également, notamment sur la définition de la subjectivité. Car dans la pensée féministe matérialiste, lorsque cette notion est mobilisée, elle fait davantage référence à la matérialité qui façonne le mental en tant que dominé. La conséquence de cette production du mental est ainsi que le pense Delahortis, que le sujet n'est pas unifié, mais plutôt multiple, et non tant divisé que contradictoire. Cette analyse n'est pas étrangère à la pensée critique matérialiste dans un usage des notions de relations sociales et de rapports sociaux en termes quasi-marxistes, c'est-à-dire d'antagonisme de classe. Toutefois, chez Delahortis, si le sujet est multiple et contradictoire, ceci n'est pas tant l'effet des rapports de domination que le résultat d'une contradiction entre la représentation de la femme et le sujet historique réel, les femmes. Partant de l'hypothèse de l'indissociabilité entre subjectivité et social dans la production de l'expérience, il convient d'examiner la production sociale du sujet et par l'expérience du genre, de la race, de la classe et de la sexualité. L'approche féministe post-structuraliste insiste donc sur ces dimensions subjectives qui excèdent les rapports sociaux. Elle renvoie davantage au principe de relationnalité de genre dans une vision qui, d'une part, laisse davantage place au pouvoir d'agir et, d'autre part, ouvre la critique des conceptions unifiées et universalisantes du sujet. Nous conduisant à interroger de façon dynamique les mouvements de résistance ou de changement dans l'ordre des pratiques et des discours, il s'agit de lier la question de la relationalité de genre à celle du rapport social en tant que logique d'organisation du genre. Cela revient à se poser la question très contemporaine de la théorisation des différences à l'intérieur même des catégories femmes, hommes, lesbiennes, gays, hétérosexuels, en tenant compte des différences attenantes aux rapports sociaux de classe et de race, aux différences générationnelles, aux situations sociopolitiques et géographiques. Alors, troisième point, consubstantialité, pouvoir d'agir et subjectivité située, cette partie va se décliner en trois points. Penser en termes de consubstantialité les rapports de pouvoir, penser les hégémonies, troisièmement, penser la manière d'un point de vue plus méthodologique dont celle-ci se traduit au niveau des formes d'énonciation du sujet. Premier point, le champ des études de genre en France et l'évolution des théories, des différentes théories critiques de la domination se sont trouvés à l'intersection des agendas politiques et des mobilisations sociales dans un contexte de réification des catégories exclusives telles que le sexe ou la race ou encore et moins la classe. En homogénéisant un groupe singulier sans faire cas des différences à l'intérieur de ce groupe, par exemple dans les dispositifs législatifs de lutte contre les discriminations. Une tendance du féminisme en France s'est trouvée remise en cause, celle selon laquelle il existerait une expérience pure du sexisme et qui universalise abusivement la domination de genre en référence à une expérience unique des femmes, la femme blanche et de classe moyenne européenne. L'analyse en termes de consubstantialité des rapports sociaux, suivant l'approche de Daniel Kergoat, s'est ainsi progressivement imposée contre cette tendance universalisante. Les rapports sociaux sont consubstantiels dans la mesure où ils ne peuvent être séquencés et ils sont coextensifs parce qu'ils se produisent et se reproduisent mutuellement. Paola Bacchetta propose quant à elle de penser les rapports sociaux avec le concept de co-formation. Elle s'intéresse ainsi à la dynamique par laquelle les pouvoirs, qui peuvent être visibles ou non, comme le sexisme, l'hétérocentrisme, la sexualité, le racisme, la colonialité, effectuant des micro-circulations se forment de manière indissociable, se transforment syncrétiquement et opèrent de concert pour produire tous les sujets, les conditions matérielles, les conduites et les objets existants. Dans cette lignée, c'est une sociologie de l'invisible à laquelle nous invitent les travaux de Maxime Servulle sur la blanchité, c'est-à-dire se pencher sur ce qui échappe au regard tel qu'il est socialement construit. D'un point de vue méthodologique, repérer la consubstantialité des rapports sociaux dans les parcours de vie permet de saisir les configurations qui s'entrecroisent et de rendre compte de l'ampleur, mais surtout du caractère invisible des formes de pouvoir. En intégrant l'articulation entre les dimensions dissimulées des hiérarchies sociales et celles plus visibles selon les parcours de vie, on considère les catégories sexe, race, genre, sexualité, classe sociale selon un continuum qui s'étend de l'hypervisible au visible, de l'invisible au caché. Il s'agit de se poser la question suivante, quelles sont les conséquences de ces hiérarchies sur les répertoires d'action et les cadres d'énonciation de soi selon les contextes sociaux ? D'où le dernier point et la conclusion, l'enjeu méthodologique qui en découle et comment penser la manière dont celui-ci se traduit au niveau des formes d'énonciation du sujet. Ainsi penser les rapports de domination et du pouvoir d'agir selon les subjectivités associées à des expériences situées impose de réfléchir au-delà de la posture épistémologique aux questions de méthode en termes de pratiques sociales. Et celle-ci n'est pas réductible à la seule explication empathique d'une expérience donnée, car elle passe également par la revendication et la reconnaissance de la production d'un savoir partiel et partial, et ce, pour tous les chercheurs et tous les objets de recherche. La question de la subjectivité ou de la subjectivation en tant que production de sujets dans les rapports sociaux devient donc un chantier de la sociologie contemporaine. En confrontant les notions de consubstantialité des rapports sociaux à celles de relationnalité de genre dans une critique de l'universalisme ethnocentrique, il s'agit ainsi d'ouvrir une discussion sur les formes de résistance dans l'usage du langage et dans les différentes expériences sociales décrites, le fait d'agir sur la récolte des données, c'est-à-dire de penser la structure de mise en discours et les possibilités d'énonciation qui sont liées aux positions de chacun, de genre, de classe, de race, de sexualité, aux acteurs engagés dans le langage, fait partie intégrante d'une fragmentation et d'un infléchissement des données dans le jeu du savoir. Je conclurai en rappelant cet énoncé programmatique de Donna Haraway. Il nous faut la puissance et l'énergie des théories critiques modernes pour comprendre comment se fabriquent les significations et les corps, afin non de nier et le sens et les corps, mais de vivre avec des significations et des corps ayant des chances d'avenir. Merci.
On est dominé par un planning extrêmement sévère. Alors, on va faire intervenir les deux autres intervenants. Et puis ensuite, vous aurez, j'espère, une petite demi-heure de débat.
Oui. Bon, alors maintenant, c'est Patricia Paperman de prendre la parole. Elle est sociologue au LabTop, au département des sciences politiques à Paris 8. Entre ses thèmes de recherche se trouvent notamment l'éthique et politique du Caire, l'éthique féministe et sociologie morale, les sentiments d'injustice et expression publique, ainsi comme les traitements sociaux et institutionnel des personnes dépendantes. Donc, je vous passe la parole.
Oui, donc, comme il y a très peu de temps, je vais aller très vite. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Donc, je vais vous présenter une version raccourcie d'une communication qui était initialement beaucoup plus ambitieuse. De ce fait, la première partie du titre, vous pouvez barrer, je conserve uniquement. La deuxième partie de l'intitulé que j'avais donné à cette communication, qui est le Caire révélateur des rapports de pouvoir. Donc, de ce fait, je commencerai par la fin, en vous priant de m'excuser donc pour la généralité du propos, parce que les détails, la précision, ça prend du temps, et éventuellement pour les sauts ou les raccourcis dans le déroulé de l'argument, même si j'ai essayé de les aplanir un peu. Voici donc la fin, ou pour ne pas jouer le faux suspense, le point central de mon argument. Le voici. Mettre en évidence les rapports de pouvoir à l'œuvre dans l'organisation sociale du travail de care et dans les modes politiques d'allocation des responsabilités de care requiert un concept de care qui soit à la fois politique et normatif. Et là, je renvoie à la conférence inaugurale de Luc Boltanski. Je me situe dans cette lignée. Donc, une approche sociologique du care ne peut ignorer les questions politiques et normatives soulevées par l'éthique féministe du care sans perte pour la compréhension et la connaissance des phénomènes étudiés. Premier point, inégalité de care et démocratie. Le travail du care n'est pas une activité glorieuse dans des sociétés, orientées vers les valeurs du marché. La rupture des sources traditionnelles de fourniture du care, provoquée en partie par l'entrée massive des femmes dans le marché du travail dans le monde occidental, riche ou du Nord, crée une situation dans laquelle il n'y a pas assez d'offres par rapport aux besoins. Dans le langage du marché, on parle alors de déficit de care. L'importation par les pays riches de travailleurs et de travailleuses du care des pays pauvres, du Sud, etc., est la façon la plus répandue actuellement de répondre à cette situation et de pallier ces manques. Tout le monde connaît, je le suppose ici, le travail de Parena sur les nouvelles figures de la domesticité, donc son premier livre, ou un de ses premiers livres, Les serviteurs de la mondialisation. L'assignation du travail de care aux groupes subalternes n'est pas une nouveauté. Comme l'a montré Evelyne Nakano-Glenn, il y a une relation circulaire entre l'assignation du care aux groupes subalternes et la non-citoyenneté ou la citoyenneté partielle. Le procédé se perpétue tout en se transformant. Femme d'abord et toujours et encore, esclave, travailleur venu d'ailleurs. Ceci est une façon d'exclure ces groupes de la participation à la vie démocratique et une façon radicale de résoudre les problèmes du care. Mais dès lors qu'une société démocratique s'engage à traiter également tous ses membres, les différentes manières par lesquelles les inégalités de care affectent les capacités des citoyens à être des égaux deviennent des questions urgentes pour les sciences sociales et la théorie politique. Deuxième point, concept de care, éthique et politique, première version, version courte. Le concept de care joue un rôle de révélateur social et politique. Non seulement souci de l'autre, mais concrètement soins apportés à l'autre, matériel et affectif, c'est pas pratique ce truc, dont la distribution s'échelonne de la famille aux institutions privées et publiques du care. Merci. Soins délivrés en un travail, rémunérés ou non, souvent largement dévalorisés et rendus invisibles, sinon naturalisés. Les éthiques, j'insiste, du care conduisent à s'interroger sur les forces de relégation sociale et politique qui président à cette invisibilité, tout en proposant une reconfiguration conceptuelle devant servir d'outil pour les désamorcer. La vulnérabilité et l'interdépendance sont opposées à l'abstraction d'êtres humains isolés, indépendants, dont la confrontation raisonnée serait à l'origine du lien social, selon l'image de Hobbes. Les éthiques du care placent la réflexion sur les vulnérabilités et les liens sociaux au centre non seulement d'un travail sur la vie morale, mais également d'un travail sur la définition même des limites du politique. Le care concept éthique, deuxième version plus longue, sous-titre « Un problème pour la sociologie ». Identifié le plus souvent à partir de la discussion philosophique sur la théorie de la justice, l'éthique féministe du care reste perçue en France comme une approche sans véritable pertinence pour les sciences sociales. Pour autant, on ne peut pas dire que les sciences sociales majoritaires ignorent totalement les analyses du care. Mais elle privilégie la dimension descriptive du concept en campant sur une position embarrassée à l'égard de la dimension normative du care et de sa portée politique. Comment décrire les activités du care sans parler d'éthique et de politique ? L'éthique qui nourrit la perspective politique du care est repoussée aux marges du tableau, à la lisière des domaines gardés des disciplines. En sociologie, c'est l'entrée par le marché du travail et la division du travail qui a permis de développer des connaissances sur le care à partir d'enquêtes sur les métiers du care. Je ne cite pas les noms des gens parce que je n'ai pas le temps. Sur les migrations transnationales de femmes pour le travail domestique et de care à domicile. sur l'organisation du travail en institution ou à la maison en fonction des types de dépendance délimités par les politiques sociales, sur l'économie du care, le développement du secteur et la professionnalisation entre guillemets des services à la personne guillemets, selon les termes consacrés par la loi Borloo, je passe. Les recherches, j'ai sauté un morceau, je suis désolée, je vais trop vite, vraiment. Donc ceci devait venir expliciter le point que j'ai sauté, que je vais reprendre maintenant. Donc l'importance du care reste donc largement ignorée des théories sociales et politiques majoritaires. Les connaissances à son sujet sont au mieux partielles, fragmentaires, en étant segmentées entre des spécialités et leur découpage d'objets et de domaines, santé, migration, famille, politique publique, travail, en l'absence d'une grammaire permettant de capter que ces connaissances fragmentaires pouvaient se relier et de saisir la signification politique de cette fragmentation. Une division traditionnelle du travail académique tend à séparer le travail de l'éthique du care, les activités de care appelant une description sociologique, l'éthique relevant de son côté d'une analyse philosophique qui serait dissociable des pratiques concrètes. Cette même division du travail académique qui sépare les approches descriptives des approches normatives, le sujet de l'objet de la connaissance, segmente l'analyse du care en une myriade de scènes et de spécialités, masquant l'organisation plus large du processus social de care et la dimension politique de l'éthique du care. De ce fait, dans les productions académiques en sociologie, les activités de care réservées entre guillemets aux subalternes focalisent l'attention par rapport à un ensemble plus large d'activités par lesquelles, citation de Tronto, nous agissons pour organiser notre monde en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Prennent part en effet à la production du care tout un ensemble de pratiques adossées à des compétences professionnelles et techniques, par exemple de soins comme les médecins, les chirurgiens ou de sécurité pour la police, mais leur part n'est pas considérée comme un travail ou un métier de care. Celui-là est délimité aux positions subalternes et la part de sale boulot est ainsi mise à distance des positions supérieures qui peuvent assumer des fonctions nobles, entre guillemets. Le genre demeure central dans ses manières de séparer professions nobles et métiers moins nobles, requérant des compétences professionnelles ou au contraire ouvertes au savoir-faire sans qualité et de ce fait naturalisables comme activité de femme. En outre, pour des sociétés valorisant l'autonomie, rendre officiellement à ces activités plus prestigieuses la part qu'elles prennent dans le processus de care comporte le risque de rendre visibles les privilèges de certains. C'est pourquoi le care ne reste visible qu'en partie, une partie soigneusement circonscrite aux femmes, aux pauvres, aux groupes racialisés et ethnicisés. Troisième partie, une conception alternative du care éthique et politique. L'importance du care et son émergence comme question politique dépendent d'une conception holistique, conditionnant l'imagination sociologique comme Wright Mills l'a fait comprendre. C'est bien cette conception qui permet, comme l'a fait Joan Tronto, de poser un argument politique pour l'éthique du care. Cette conception holiste appréhende l'éthique dans le registre des pratiques concrètes, reliant les fragments disloqués en un ensemble intelligible. L'importance de cette conception est d'avoir mis en évidence la dimension collective et organisée du care, à l'opposé de la vision fragmentée d'une myriade de relations duelles, interpersonnelles, informelles ou plus institutionnalisées. Le care est un processus et sa réalisation et sa qualité est mieux comprise si l'on différencie plusieurs phases ou moments moraux qui concourent à son accomplissement et ce, à des échelles différentes. Je vous passe les quatre étapes, les quatre du processus de care tel que Tronto l'a analysé. Une telle conceptualisation intègre d'emblée les rapports de pouvoir qui configurent la division raciale, sociale et sexuelle du travail de care. Cette perspective permet de rompre avec la figure d'un care donc, qui serait circonscrit à une relation duelle et de ce fait passe à côté du caractère multipartite de la production du Caire, y compris dans un cadre privé. Citation de Tronto. Par exemple, nous pensons typiquement le Caire en termes personnels et intimes. Nous avons l'habitude de traduire cette valeur dans les modèles préexistants du Caire familial. Quand nous prenons soin des autres, nous pensons à nos proches, à leurs besoins concrets et particuliers. Dans une société compétitive, prendre soin de nos enfants signifie que nous veillons à ce qu'ils gagnent une avance dans la compétition contre les autres. Mais si l'on considère le Caire non pas au niveau individuel, mais au niveau social, le Caire, sa distribution, reflète le pouvoir des groupes sociaux. Il se voit dans la capacité d'un groupe à obliger d'autres à endosser le travail de caregiving, à reporter le travail sur d'autres. Les hommes sur les femmes, les classes supérieures sur les classes inférieures, les hommes libres sur les esclaves, etc. Le travail en lui-même est exigeant et inflexible, et tout dans ce travail n'est pas productif. Les personnes qui l'assument en reconnaissent la valeur intrinsèque, mais celle-ci ne correspond pas ou ne colle pas avec une société qui valorise l'innovation et l'accumulation de la richesse. J'ai presque fini. L'analyse du Caire comme processus, donc, permet de donner un statut aux disparités caractéristiques des différentes positions dans le processus général, et donc en particulier dans les façons de considérer et de répondre aux besoins de care de ces travailleuses et de leurs proches. Dans notre société, citation, le care ne fonctionne pas de façon égalitaire. La distribution du travail de care et des bénéficiaires du care contribue à maintenir et renforcer les modèles existants de subordination. Ceux qui endossent le travail concret sont encore plus abaissés, car leurs besoins ne sont pas aussi importants que le besoin de ceux qui sont assez privilégiés pour pouvoir payer d'autres personnes pour s'occuper d'eux. Fin de citation. Le processus de care est donc une construction qui, en identifiant les différents moments moraux nécessaires à la production du care, fournit une perspective sur l'organisation sociale des différentes activités qui permet de rendre visibles les lignes de force sociales selon lequel se distribuent les places dans cette organisation et de ce fait de poser la question des modalités politiques de l'allocation des responsabilités de care. Pour conclure, c'est bien une perspective féministe sur l'éthique et le politique qui donne au concept de care son tranchant critique. Cela implique de refuser les dichotomies savantes, par exemple fait-valeur, théorie-empirie, agent-structure, raison-émotion, culture-nature, blanc-noir, homme-femme, lesquelles dichotomies, comme l'a montré Patricia Hill Collins, composent la matrice de la domination. Une perspective féministe sur le care implique donc de refuser ces dichotomies savantes et de substituer une conception holiste, relationnelle du care. Outre les connaissances du monde social qu'elle rend possible, elle permet de rendre compte de la méconnaissance du care, le plus souvent identifiée comme invisibilisation, organisée par les paradigmes dominants et majoritaires des sciences sociales. Cette méconnaissance organisée conforte les rapports de pouvoir qui maintiennent le care dans un registre infra-politique.
Notre dernier intervenant, je vais présenter, c'est Yves Rebaud. Il est géographe à l'Université de Bordeaux. Donc, il est aussi chargé de mission et égalité femmes-hommes à l'Université de Bordeaux. Et il traite sur la géographie du genre et les études masculines. Donc,
Ça marche ? Ça marche ? Ah non, c'est trop court. C'est trop court. C'est un tour. Est-ce que ça marche? Voilà, si je suis un petit peu en recul, c'est pas de la distance, c'est parce que j'ai des cartons sous les pieds, puis c'est un petit peu chaud. Voilà, donc. Alors, merci de m'avoir invité à cette tribune comme géographe, ce qui est une étrangeté en soi. Et donc, je vais vous parler de façon assez rapide de travaux de recherche qui s'inscrivent à la fois dans une approche empirique de la ville, puisqu'il s'agit des usages des habitantes et des habitants sans distinction de leur corps dans la ville, et puis également usage de la ville par le genre, dans le sens genre rapports sociaux de sexe au minimum, c'est-à-dire dans une philosophie, dans une approche de sociologie de la domination et une perspective féministe qui n'exclut pas l'imbrication des rapports sociaux de race, de classe et d'âge, bien sûr. Alors, trois enquêtes, je vous présente très rapidement trois enquêtes sur les effets du concret du genre dans la construction de la ville. Donc, des enquêtes réalisées sur une communauté urbaine française d'environ 1 million d'habitants. À Bordeaux, on exagère un peu, on est plutôt à 900 000, mais donc c'est de Bordeaux qu'il s'agit. Une première sur les espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. Une deuxième qu'on a appelée l'usage de la ville par le genre sur les circulations différenciées des femmes et des hommes dans la ville de Bordeaux. Et une troisième qui est une approche ethno-méthodologique des processus de participation qui aboutissent à des décisions prises publiques dans le cadre local dans le domaine de la mobilité en ville. Alors, première enquête très rapide, donc je vous laisse lire, sur les équipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons. Alors, on parle des garçons, des jeunes. Hein. Les filles décrochent de tous ces équipements et de ces loisirs, toutes catégories confondues. Alors, dans nos statistiques, on inclut les salles de danse, les salles de sport, etc. Troisième élément, les équipements de loisirs sportifs d'accès libre, skatepark, citystade, sont exclusivement occupés par les garçons, ainsi que les lieux de répétition et les scènes des musiques actuelles amplifiées. Et donc, les études ethnographiques menées sur ces lieux confirment qu'ils fonctionnent comme des maisons des hommes qui valorisent les garçons virils et dominants à l'exclusion des autres. Deuxième étude, à partir d'un très important corpus glané à l'Agence d'urbanisme d'Aquitaine sur les mobilités, qui avait interrogé 6000 ménages, donc ménages aussi bien des foyers de toutes formes et que des. Donc, où on voit, à travers notamment les mobilités, hein, les accompagnements que pour les courses, le ménage, les accompagnements d'enfants ou de personnes âgées, ben, les femmes sont encore à 60-75%. Hein, donc, qu'elles participent peu, ça c'est le cadrage général à la vie politique, que la construction de la ville est faite pratiquement exclusivement par les hommes à des niveaux de décision, par les architectes ou les urbanistes, et puis que massivement, elles se sentent en insécurité la nuit et adaptent leur comportement en conséquence. Alors, une étude d'abord, exploration de chiffres quantitatifs de l'enquête, et puis ensuite des groupes focus qui nous ont amené à réaliser une cartographie de la ville. Vous avez un petit exemple rigolo avec la gare, tout ça, et donc avec des quartiers préférés, avec des stéréotypes bien marqués de genre, je m'en excuse, mais c'est pas forcément dans cet esprit-là que c'est écrit sur les autres cartes. Alors, trois autres études micro-géographiques, et donc on est en train de continuer sur d'autres. Une sur le quartier de Paludat, qui est un quartier de fête étudiante, ou à la fois qui est un quartier qui est très attractif pour les étudiantes, où elles sont bienvenues, parce qu'elles font partie aussi de l'attraction de la fête, mais absolument difficile à vivre, stressant au moment où il faut partir, au moment où on y vient et au moment où il faut partir, puisque c'est dans un quartier délaissé de la ville, et là où se posent toutes sortes de problèmes, à la fois de sécurité, de sentiment d'insécurité. Un autre quartier, la Porte de Bourgogne, qui est un nœud de circulation en bordure des quais, où là, on a fait les cartographies aussi des circulations des femmes et des hommes séparés, donc qui passent sous le pont, qui passent sur le pont, qui descend l'escalier, comment globalement les femmes évitent les terrasses de café, etc. Donc ça nous a amené à faire aussi une cartographie différenciée de jour et de nuit de ce quartier. Et troisième étude sur un parc public réaménagé, dans lequel eh bien, on a travaillé sur les peurs urbaines et puis sur les espaces repoussoirs que représentent les skateparks et les équipements sportifs d'accès libre destinés aux jeunes et qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, occupés exclusivement par les garçons. Alors, ces enquêtes montrent une ville traditionnellement construite par et pour les hommes. Et donc, on peut se poser la question de la poule et de l'œuf. Hein. Donc, est-ce que c'est un rapport avec l'investissement moindre des femmes dans la ville? La manière dont leur présence dans la ville hors travail tend à être réduite aux fonctions de care, enfants, personnes âgées, domesticité. Donc, c'est ces thèmes-là qui caractérisent les politiques publiques quand elles s'intéressent aux femmes. le fait que les femmes qui sortent le soir continuent à être considérées comme des proies potentielles, possiblement consentantes, là on rejoint tous les travaux faits par Marilyn Lieber et aussi sur l'espace public, et puis la persistance des agressions homophobes. Donc nous avons été champions de France, peut-être avec Lyon, des manifestations pour les manifs pour tous, et depuis on a une forte augmentation sur les observatoires de Bordeaux des agressions homophobes. Donc cette recherche, dans un troisième temps, et excusez-moi pour la rapidité de cet exposé, interroge la communauté des membres en essayant de comprendre comment les allants de soi qui rendent invisibles ces inégalités. Donc personne ne voit qu'il n'y a que des garçons sur les espaces publics parce que c'est normal, quoi. Ou alors on dit si, il y a des filles parce qu'il y a une fille hyper visible sur le skatepark. Voilà. Alors, j'ai participé comme expert, c'est un biais, puisque j'étais géographe, et donc je n'avais pas dit que je travaillais sur ce sujet, à une série de réunions publiques organisées par l'Agence d'urbanisme et les élus de la communauté urbaine sur les schémas de mobilité urbaine des 20 prochaines années. Donc le jeu consistait pendant 6 mois à réunir tous les acteurs de la vie publique, associations, groupes de pression, administrations locales, élus, pour travailler sur la ville de Bordeaux dans 20 ans et surtout les circulations. Donc lors de ces réunions, qui sont des réunions typiques des opérations de participation, le comptage des présences et des temps de parole a été réalisé sur 6 ateliers et 3 réunions plénières, qui marquent que 75% des participants sont des hommes, 85% des animateurs d'ateliers sont des hommes, 100% des intervenants extérieurs sont des hommes, et 90% du temps de parole est occupé par les hommes, etc. Alors juste, je vous laisse lire ce petit tableau qui fait partie de mes fiches, j'en ai une trentaine là-dessus. 26 juin 2012, 14h-18h, atelier de synthèse. Donc j'ai compté les femmes, les hommes, le président, les rapporteurs d'atelier. À la fin de l'après-midi, les hommes ont parlé 3h23 et les femmes 0h17. Voilà. Difficile de s'imposer, à 11 reprises d'intervention sauvage, des hommes qui coupent la parole. Invisible, à 5 reprises dans l'après-midi, des femmes lèvent la main, le président ne leur donne pas la parole. Trop long, à 15h27, une représentante de la Fédération des parents d'élèves fait une intervention sur l'accompagnement des enfants à l'école. 4 minutes, brouhaha, personne ne l'écoute. Le président lui demande d'abréger son propos car c'est l'heure de la pause. Hors propos, 16h30, une femme parle des difficultés des femmes de milieu rural qui travaillent en ville. Le président l'interrompt en lui faisant remarquer que c'est hors propos. L'intérêt général avant tout, 17h15, une femme parle des problèmes d'accompagnement des personnes âgées qui habitent près de chez elle. Un rapporteur d'atelier l'interrompt, on ne peut pas prendre en compte tous les cas particuliers, il s'agit de débattre de l'intérêt général. Alors, ces conclusions, enfin ces observations, ne collent pas effectivement avec l'unanimité qui ressort de ces débats et qui font consensus dans le cadre d'une ville post-carbone, d'une slow attitude dans la ville, d'une ville douce, etc. Donc ce qui fait consensus et qui est voté après long débat, c'est qu'il vaut mieux aller à pied à l'école. Donc là, évidemment, c'est une assemblée d'hommes qui le vote. Utiliser le vélo et les deux roues motorisées, donc les enquêtes longitudinales qu'on fait sur le vélo et deux roues motorisées montrent qu'elles sont très très majoritairement utilisées par les hommes. Développer les covoiturages, même les analyses qu'on fait ou les petites mémoires d'étudiants montrent que le covoiturage n'est pas la solution préférée des femmes qui, pour toutes les raisons que vous connaissez, enfin qu'on pourrait détailler. Et puis alors une observation tout à fait croustillante. Intéressante, c'est optimiser les centres commerciaux périphériques comme parking, relais et concentration de services. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre le tramway à l'entrée de la ville et en même temps déposer les enfants, faire les courses, les déposer à la crèche. Et donc c'est une idée pour tous, bien sûr, comme vous l'avez compris, pour optimiser le travail des femmes, mais proposée par des experts masculins en toute innocence. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Alors ces observations, ce consensus, il faut les mettre en rapport avec les tenues pour acquis de la communauté, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas le choix, puisqu'il y a le réchauffement climatique, la pollution, les embouteillages, et qu'en plus, ça se colle aussi avec une vision utopique, charismatique de la ville douce, la ville verte, post-carbone, la slow attitude, l'attitude calme d'une ville où on pourrait flâner, pendant qu'une partie de la population est encore plus stressée par les contraintes de circulation. Voilà. Alors les ouvertures théoriques, on pourrait les classer dans les courants que j'ai définis tout à l'heure, mais sur les urban studies et masculinities, en prenant l'idée que dans la ville, les rapports sociaux de sexe sont structurés, construits, mais aussi dissimulés. On ne peut plus dire ouvertement que les hommes dominent la ville. Donc on ne peut plus affirmer publiquement la supériorité des hommes sur les femmes. Il reste possible de définir une norme universelle qui masque le groupe dominant, ce qui permet de définir le groupe dominé, la minorité, comme ne s'intégrant pas à la norme. Donc les femmes qui sont rétives à faire du vélo ou aller à pied dans la ville, donc sont désignées comme une minorité ne s'intégrant pas, d'autant plus qu'à tout moment, on peut s'appuyer aussi sur une minorité de femmes qui, elles, sont sur d'autres espaces et donc peuvent dire c'est possible aussi pour les femmes, mais qui sont évidemment des minorités par rapport à une majorité de femmes qui sont dans des situations de domination. Alors, nous avons bien sûr observé dans ces travaux que les décideurs, organisateurs, élus, citoyens étaient presque exclusivement des hommes à la peau blanche, y compris les minorités telles que les handicapés. Donc l'ouverture vers l'intersectionnalité se fait à partir d'un point de vue critique sur la masculinité et la blanchité, whiteness. Merci à Maxime Servulle qui m'a ouvert cette voie, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour interroger la sincérité des politiques d'intégration des habitants de sexe, âge, classe et race différents dans une ville durable. Puis je vous mets quatre petites vignettes pour finir sur l'approche culturelle de la ville et les questions qu'on peut se poser dans les grands travaux des villes si on les transposait dans l'hégémonie des cultures masculines.